Laudetur Jesus Christus.
Au Liban, la voie semble ouverte pour élire un président ce jeudi. Les députés vont bientôt se réunir. Le favori est le chef de l'armée, Joseph Aoun. Les inquiétudes de la communauté alaouite en Syrie, des combats ont encore lieu entre les partisans de l'ancien régime de Bachar al-Assad et les forces du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham. Reportage sur place. La politique espagnole visée à son tour par les provocations de l'américain Elon Musk. Le premier ministre espagnol a répondu à l'homme le plus riche du monde. Dans ce journal également, la lutte contre le travail des enfants, elle passe par le recrutement des professeurs en Thaïlande. Et au Venezuela, la tension monte, l'opposition cherche à mobiliser avant l'investiture demain de Nicolas Maduro pour un troisième mandat. L'analyse à suivre du chercheur Thomas Posado.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle tentative après 2 ans de vacances au Liban. Le Parlement se réunit aujourd'hui pour tenter d'élire un président. Le pays du Cèdre n'a plus de président depuis la fin du mandat de Michel Aoun. C'était en octobre 2022. Alors pourquoi un tel blocage? Les explications à Beyrouth de Paul Ralifet.
L'élection d'un président est bloquée par les clivages politiques entre les différents partis et leur incapacité à s'entendre sur un candidat consensuel. Un pacte national non écrit, conclu au lendemain de l'indépendance en 1943, veut que le président libanais soit toujours un chrétien maronite, le premier ministre un musulman sunnite et le chef du parlement un chiite. Le Hezbollah et ses alliés ont soutenu la candidature du chef maronite du Nord-Liban, l'ex-ministre et député Sleiman Frangieh. Ses adversaires appuyaient un ancien ministre, aujourd'hui haut fonctionnaire à la Banque mondiale, Jihad Azour. Les divisions politiques ont empêché pendant 2 ans le Parlement de réunir la majorité nécessaire pour élire un président. Le Hezbollah et ses alliés provoquaient un défaut de quorum pour barrer la voie aux candidats de leurs détracteurs. Avec les réalités issues des récents développements au Liban et en Syrie, de nouveaux rapports de force sont apparus et le déblocage institutionnel pourrait se produire. Pour la séance de ce jeudi, un favori a émergé, le chef de l'armée, le général Joseph Aoun. Mais des obstacles persistent. Son élection n'est pas impossible sans être entièrement acquise. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Les tractations autour d'un cessez-le-feu à Gaza continuent, c'est ce qu'affirme le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, aux côtés de son homologue français hier soir. Cela fait 1 an que le Qatar, les États-Unis et l'Égypte sont engagés dans des discussions en vue d'une cessation des hostilités dans l'enclave palestinienne et la libération des otages toujours retenus à Gaza. Hier soir, Tel Aviv annonçait que le corps de 2 otages du 7 octobre avait été ramené en Israël. En Syrie, 1 mois après la chute de la dictature de Bachar al-Assad, les combats continuent entre des loyalistes et des hommes d'Hayat Tahrir al-Sham, le groupe qui a pris le pouvoir. Ces combattants pro-régime se cachent dans les montagnes alaouites près de la côte afin de mener des offensives contre le nouveau régime. Et la minorité alaouite qui vit dans la région craint-elle de se retrouver associée à ces combats? Le reportage de Manon Chaplin à Rorbat al-Meir, où de violents combats ont eu lieu la semaine dernière.
Des traces de sang jonchent encore la tente. À terre, des dizaines de cartouches ont été laissées là, au pied d'un tabouret duquel Ahmad n'arrive plus à partir. Il y a quelques jours, il était assis là lorsque son père s'est fait tuer. Un alaouite sans histoire, pris en embuscade dans des combats entre les loyalistes de Bachar al-Assad et le nouveau régime.
Un combattant est arrivé par ici et il a commencé à tirer dans notre direction. Je me suis échappé, mais mon père est mort sur le coup.
Ces combattants d'HTS recherchaient là des loyalistes cachés dans des appartements du village. Nombre d'habitants ont pris peur. 3 d'entre eux se sont fait tuer en fuyant. Mahmoud a entendu les tirs depuis son épicerie.
Pour dire la vérité, ils sont arrivés ici comme s'ils arrivaient à la guerre. Certains soldats pensaient peut-être que tous les habitants ici étaient des soutiens du régime, car nous sommes alaouites. Mais c'est faux. Tous les alaouites ne soutiennent pas le régime.
Depuis, les rues du village restent vides, plus personne n'ose sortir. Selon Mahmoud, certains loyalistes se cacheraient encore parmi les habitants.
Nous avons très peur. Malgré ces incidents, nous soutenons toujours HTS, car nous savons que eux seuls peuvent nous protéger. La plupart des gens ici cherchent seulement la liberté, la stabilité et la sécurité.
Il y a 2 jours, 3 nouveaux soldats d'HTS se sont fait tuer lors d'un d'un combat entre loyalistes et nouveau régime, plus au nord, à Latakia.
Aror Batelmaza, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Le tracé des événements est encore flou. Au Tchad, hier soir, un commando de 24 personnes a attaqué le palais présidentiel à N'Djamena. Les hommes ont débarqué d'un camion remorque avant d'être décimés. 18 personnes sur les 24 ont été tuées, également un garde de la garde présidentielle. Les premières informations évoquaient une possible attaque terroriste de Boko Haram. Mais selon la présidence tchadienne, le commando était, je cite, un ramassis de pieds nickelés, armé de machettes, drogués et alcoolisés. Au Mozambique, le principal opposant vient d'arriver à l'aéroport de Maputo. Il se dit prêt à négocier avec le Frelimo au pouvoir. Un retour après des mois de manifestations violentes contestant la victoire du Frelimo aux élections du 9 octobre. Les accès à l'aéroport de Maputo, la capitale, sont actuellement bloqués et des centaines de jeunes partisans se sont vus refuser l'accès pour accueillir Venancio Mondlane. Après l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, c'est maintenant l'Espagne qui est dans le viseur d'Elon Musk. L'offensive du patron de X, anciennement Twitter et également patron de Tesla et futur ministre de l'efficacité gouvernementale, a fait réagir le Premier ministre Pedro Sanchez qui lui a répondu. À Barcelone, Luis Marsens.
Jusqu'à présent, il s'était surtout invité dans les débats politiques britanniques ou allemands. Mais en début de semaine, Elon Musk a visé l'Espagne et plus particulièrement la Catalogne. Sur X, dont il est le propriétaire, le soutien de Donald Trump a relayé un article sur les nationalités supposées de condamnés pour viol en Catalogne. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a réagi hier lors d'un discours tenu à l'occasion des 50 ans de la mort du dictateur Franco. L'international réactionnaire, comme l'a dit le président Macron, mené par l'homme le plus riche de la planète, attaque ouvertement nos institutions et incite à la haine, a déclaré Pedro Sanchez. Pour le socialiste, il s'agit, je cite, d'un défi qui devrait interpeller tous ceux qui croient en la démocratie. Les régimes autocratiques progressent dans la moitié du monde et le fascisme que nous pensions avoir laissé derrière nous est déjà la troisième force politique en Europe, a martelé le chef du gouvernement, une allusion à peine voilée au parti espagnol Vox en pleine progression dans les sondages. Mardi, c'est le président catalan qui a répondu à Elon Musk. Nous ne permettrons à personne d'utiliser le nom de la Catalogne pour propager un discours de haine, a souligné Salvador Illa. Barcelone, Luis Marsens pour Radio Vatican.
Los Angeles encerclé par les flammes qui menacent désormais le quartier d'Hollywood. Il faut partir immédiatement, indiquent les pompiers. Plus de 1500 bâtiments ont déjà été détruits par le feu, attisés par des vents de 160 km/h. 100 000 habitants de la mégalopole américaine ont dû être évacués. Un incendie rendu plus puissant car cet hiver est très sec en Californie. Le président américain Joe Biden, qui devait se rendre aujourd'hui en Italie et samedi au Vatican, a annulé son déplacement. En ce mois de janvier, c'est l'éducation des enfants qui est au cœur des intentions de prière du pape François. Il a d'ailleurs alerté hier lors de l'audience générale sur l'exploitation des plus petits. En effet, selon les Nations Unies, 160 millions d'enfants, soit 1 sur 10 dans le monde, sont obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. En Thaïlande, le long de la frontière avec la Birmanie, le père xavierien Alessandro Braille tente malgré tout d'encourager les enfants à aller à l'école. Une de ses missions est de recruter et de conserver les professeurs pour son école. On l'écoute.
C'est un autre problème qu'on a découvert parce qu'il y a ces centres, ce sont des centres birmans, là où il y a des professeurs birmans qui enseignent. Mais le problème, c'est que ces professeurs n'ont pas d'argent. Alors, une partie des offrandes qu'on reçoit, c'est pour soutenir même les professeurs. Mais on n'arrive pas à soutenir tout le monde. On a fait un choix de certains centres qu'on est en train d'aider, mais on n'arrive pas à aider tous les centres. Ça permet au moins aux adultes professeurs de rester d'enseigner parce qu'il y avait des moments, et il y en a encore des moments là où les professeurs, au lieu d'enseigner, allaient travailler dans les champs parce qu'ils pouvaient gagner quelque chose. Au lieu d'enseigner, de ne rien gagner pour pouvoir soutenir leur famille, aller aux champs. Alors on essaie même avec les offrandes, les aides, de soutenir même les professeurs qui enseignent. C'est un centre qu'on a créé, ça fait 2 ans, et on a plus ou moins 60 enfants qu'on est en train d'aider. Mais combien ont besoin d'aide. C'est des milliers et des milliers de gens qui ont besoin d'aide, parce que c'est beaucoup, beaucoup de familles qui sont là depuis longtemps et qui arrivent tout le temps.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. C'est la rentrée diplomatique au Vatican aujourd'hui. Les vœux du pape François aux plus de 180 ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Un discours fleuve dans lequel sont tracées les lignes de la diplomatie vaticane, à suivre en direct sur notre site internet à partir de 10h. Caracas, telle une citadelle. Demain, le président sortant, Nicolas Maduro, au pouvoir du Venezuela depuis 12 ans, doit prêter serment pour la troisième fois. L'opposition tente de mobiliser la population. Comment quelques milliers d'hommes armés peuvent-ils battre 30 millions de Vénézuéliens? Lançait Maria Corina Machado, la chef de l'opposition, se disant prête à sortir de la clandestinité et invitant les Vénézuéliens à vaincre la peur et à descendre dans la rue. Mais la peur est bien présente. Les têtes des candidats de l'opposition sont mises à prix et le candidat perdant à la présidentielle, Edmundo Urrutia, annonce lui revenir demain au Venezuela pour être investi. Mais selon Thomas Posado, maître de conférence à l'université de Rouen, l'opposition a peu de chances de mobiliser.
Je ne suis pas très optimiste, enfin, du point de vue de Maria Corina Machado, sur la possibilité que des foule sorte dans la rue, parce que la répression a été dure. Il y a eu autour de 2000 arrestations cet été, et la lutte principale qui s'est déroulée ces derniers mois, c'est pour essayer d'avoir quelques libérations. Il y a eu plusieurs centaines de libérations ces dernières semaines, mais pas des revendications offensives et pas des protestations offensives sur la reconnaissance de ce scrutin. Donc les protestations du 9 seront sans doute relativement réduites au vu de la faible espérance qu'ont les Vénézuéliens à l'intérieur du pays et de l'ampleur de la répression que Nicolas Maduro menace à demi-mot de déployer à nouveau si protestation massive il y a à nouveau.
Le candidat de l'élection présidentielle de juillet de l'opposition est en exil. Edmundo González était ces derniers jours en tournée, notamment aux États-Unis. Est-ce que ce soutien de l'étranger peut être un atout, un levier, quand on sait que ça n'a pas fonctionné pour l'opposition par le passé, notamment avec Juan Guaido, reconnu quand même par 50 pays étrangers?
La stratégie de jouer la communauté internationale contre Nicolas Maduro, elle a été utilisée en 2019, elle a été utilisée de manière erronée, et cela a été un échec, hein, parce que Nicolas Maduro se fait fort d'être le rempart de la souveraineté vénézuélienne face aux ingérences étrangères, et que cela ne change pas grand-chose aux équilibres à l'intérieur du pays, d'autant plus que les mesures coercitives unilatérales qu'ont mis en place les États-Unis, surtout entre 2019 et 2023, particulièrement brutales, ont fait que l'économie Vénézuélienne a su s'adapter, a su diversifier ses partenaires, commerce davantage avec la Chine, apprend avec la Russie à détourner les sanctions. Il me semble insensé d'imaginer que le pari perdant de Juan Guaido en 2019 puisse être un pari gagnant en 2025. Si changement il y a, sans doute il viendra de l'intérieur du pays, mais que les alliés traditionnels de l'opposition continuent de soutenir l'opposition, ça ne va sans doute pas impressionner beaucoup Nicolas Maduro.
Edmundo González, qui espère rentrer au Venezuela pour prêter serment, a appelé l'armée justement à rejoindre les rangs de l'opposition. Réponse immédiate du ministre de l'Intérieur qui promet de l'arrêter s'il pose le pied au Venezuela. On parle aujourd'hui des 1800 prisonniers politiques dans le pays. Est-ce qu'on peut dire que la fraude et la force, c'est encore ce qui fait tenir le régime Maduro?
La fraude et la force sur cette dernière séquence, d'une manière générale, ce qui fait tenir Nicolas Maduro, c'est aussi un système de pouvoir qui tient, où l'institution militaire, elle est à la fois particulièrement surveillée pour les bas gradés, mais elle est à la fois particulièrement récompensée dans ses hautes sphères. C'est aussi des nouvelles élites économiques qui voient une relative stabilité maintenant du pouvoir autour de Nicolas Maduro. Et c'est de nouveaux partenaires économiques, hein, où la Chine devient un partenaire économique dans l'échange de pétrole, dans la reprise de la production pétrolière. Hein. Production de pétrolière, c'était vraiment effondrée à un niveau extrêmement faible de 300 000, 400 000 barils en 2020. Aujourd'hui, elle frôle le million de barils par jour. Alors, ça reste très bas par rapport à ce qu'était la situation du Venezuela jusqu'en 2015, mais c'est un retour à une certaine croissance. Hein. Le Venezuela, depuis 3-4 ans, a eu du 15-20% de croissance en tout, hein, sur l'ensemble des 3-4 années. Et c'est une croissance qui est fondamentalement inégalitaire, avec des plus riches qui profitent de cette abondance de dollars et des plus pauvres qui restent sous dépendance des maigres aides alimentaires que donne le gouvernement, mais c'est une croissance qui crée ce phénomène de nouvelles élites économiques qui profitent d'un pouvoir autoritaire qui n'a pas trop de règles pour attirer des investissements.
Voilà, interrogé par Marie Duhamel, Thomas Posado, auteur du Venezuela de la révolution à l'effondrement, publié en 2023, était ce matin notre invité. Merci de votre écoute. L'information revient tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.